Marcof le Malouin, chapitre 12. Le tailleur de Fouesnant. 3 jours après le dernier de ceux pendant lesquels se sont passés les divers événements qui ont fait le sujet des précédents chapitres, les cloches de l'église du petit village de Fouesnant, lancées à toute volée, appelaient les fidèles à l'office du dimanche, et les fidèles s'empressa de répondre à ce pieux appel. Aussi, depuis le matin, comme cela se pratique chaque dimanche, les sentiers des montagnes, les chemins creux bordés d'ajoncs et de houx, les routes serpentant au milieu des landes et des bruyères, étaient-ils couverts de braves paysans portant leurs costumes de fête, leurs grands chapeaux enrubannés et s'appuyant sur leurs pambas. Au loin, on distinguait les jeunes filles et les femmes, les unes parées de leurs plus beaux corsages, de leurs jupes aux plus éclatantes couleurs, marchant deux à deux ou donnant le doigt à leur promis, tandis que les parents, qui suivaient à courte distance, admiraient naïvement la brave tournure du gars et la gracieuse démarche de la fillette. Les autres, escortés par leurs maris, par leurs frères, par leurs enfants, portant dans leurs bras le dernier né, et dans la poche de leur tablier le gros missel acheté à Quimper et donné par l'époux le jour du mariage. Puis, au milieu de toute cette population jeune, alerte et remuante, s'avançaient gravement les vieillards et les matrones. Tous se dirigeaient vers l'église paroissiale de Fouesnant. À 10 heures, la place du village regorgeait de monde, et personne pourtant n'entrait dans l'église où l'on allait célébrer la grand-messe. On attendait le marquis de Locronan, qui jamais n'avait manqué d'assister à l'office. Enfin, un mouvement se fit à l'extrémité de la foule. Un passage se forma de lui-même, et le marquis, suivi de Jocelyn qui portait son livre et de 2 domestiques assez livrés, fit son entrée sur la place. Toutes les têtes se découvrirent. Le marquis, poli lui-même comme on l'était autrefois, poli comme un véritable grand seigneur qui laisse l'insolence aux laquais et aux parvenus, le marquis, disons-nous, posa la main à son chapeau et salua les paysans. Puis il traversa lentement la foule, s'arrêtant pour adresser à l'un quelques mots affectueux, à l'autre quelques amicales gronderies. Aux femmes, il parlait de leurs enfants malades. Aux jeunes filles, il faisait compliment de leur bonne mine. Aux vieillards, il leur serrait la main. Et c'était sur toutes ces braves et franches physionomies bretonnes des sourires de joie, des rougeurs de plaisir, des yeux s'humectant de douces larmes. Toutes les expressions, enfin, de l'amour, du respect et de la reconnaissance. Aussi, on se pressait, on se poussait, pour obtenir la faveur d'un regard du marquis, à défaut d'un mot de sa bouche. Les pères lui présentaient leurs enfants pour qu'il passât ses doigts blancs et aristocratiques sur leurs têtes blondes et couvertes de cheveux dorés. Les vieillards s'inclinaient sur la main qui serrait la leur. Les gars, jeunes et vigoureux, se redressaient fièrement sous les doigts qui leur touchaient l'épaule. Et les jeunes filles rougissaient en répondant par une révérence aux paroles affectueuses de leur seigneur. Arrivé devant l'église, le marquis appela du geste les élus, parmi les vieillards, qui devaient ce jour-là s'asseoir à ses côtés. Au nombre de ces derniers se trouvait le vieil Yvon, que le marquis honorait d'une affection toute particulière. Il avait même coutume de baiser sur le front la jolie Yvonne, faveur qui la faisait bien fière, et rendait fort jalouse ses jeunes amies moins bien traitées par le gentilhomme. Au moment où le marquis arrivait sur le seuil, le recteur, en étole et en surplis blanc comme la neige de sa chevelure, s'avança, suivi de son modeste clergé, pour lui offrir l'eau bénite. Le marquis la reçut avec respect, et, saluant amicalement le vénérable prêtre, il le suivit jusqu'à son banc seigneurial. Ce banc, plus élevé que les autres, et situé près du maître-autel, était remarquable par les sculptures qui le décoraient. C'était un cadeau qu'un des ancêtres du marquis avait fait à la paroisse, car bien qu'il y eût une chapelle au château, l'habitude de la famille de Locronan était depuis des siècles d'aller entendre la messe du dimanche à l'église du village. Après la célébration de l'office divin, le marquis, reconduit par le recteur, traversa l'église et retourna au château. Les paysans, se réunissant suivant leurs fantaisies, leurs habitudes ou leurs amitiés, allèrent, en attendant vêpres, les uns faire une promenade dans les bruyères, les autres vider quelques pichets de cidre en devisant des nouvelles du jour. Ce dimanche-là, il y avait réunion chez Yvon. La jolie Yvonne, plus charmante encore sous sa riche parure, entraîna ses amis pour leur faire voir les cadeaux de noces de son fiancé. Jahoua et les hommes se réunirent au vieillard et s'assirent à la porte en plein air, autour d'une longue table de chêne sur laquelle circulaient les verres et les pichets. Déjà, la conversation s'engageait, joyeuse et bruyante, lorsque l'arrivée d'un nouveau personnage vint porter la gaieté à son apogée. Ce dernier venu était un petit homme d'apparence grêle et délicate, aux jambes un peu arc-boutées, aux pieds longs et plats, aux bras énormes et maigres, et dont le dos était affligé de cette proéminence naturelle que les gens trop sincères appellent une bosse, et que ceux mieux élevés nomment une déviation de la taille. Sa tête, large et grosse, paraissait hors de proportion avec le reste du corps. Une bouche énorme, un nez épaté, des joues vermillonnées, de petits yeux noirs, vifs et spirituels, complétaient l'ensemble de sa figure. Ce pauvre disgracié de la nature se nommait Kersan. Mais il était beaucoup plus connu sous le nom de tailleur, qui était celui de la profession qu'il exerçait. Pour bien comprendre l'importance du personnage nouveau que nous mettons en scène, il nous faut expliquer brièvement au lecteur les diverses attributions du tailleur dans la Basse-Bretagne. Un fait remarquable, c'est que dans la vieille armorique, tous les tailleurs sont contrefaits, les uns boiteux, les autres bossus, etc. Cela s'explique en ce que cet état n'est guère adopté que par les gens qu'une complexion débile ou défectueuse empêche de se livrer aux travaux de l'agriculture. Un tailleur possesseur d'une bosse, de deux yeux louches, de cheveux roux, est le nec plus ultra du genre, le beau idéal de l'espèce. Au moral, le tailleur est généralement conteur, hableur, vantard et peureux. Il se marie rarement, mais il fait le galantin auprès des filles, qui se moquent de lui. Les hommes le méprisent à cause de ses occupations casanières et féminines. S'il parle de lui, c'est en ajoutant « sauf votre respect », comme lorsqu'il s'agit de choses dégoûtantes. En général, il est le favori des femmes, que ses contes amusent, que son babil réjouit, que sa gourmandise fait sourire. Il n'a pas de domicile. Il va de ferme en ferme, séjournant dans l'une, passant dans l'autre le temps pendant lequel on l'occupe à raccommoder les habits des gars et les justins des filles. Il est poète, faiseur de chansons, chanteur et musicien. Vivant d'une existence nomade, il sert de journal au pays dans lequel il arrive. Il arrange les événements, recueille les légendes. Seulement, il a grand soin que la plaisanterie domine toujours dans ses récits. Mais sa fonction principale, celle dans laquelle il brille de tout son éclat, c'est celle d'agent matrimonial. Dès qu'un gars éprouve le désir de prendre femme, il va faire part au tailleur de ses dispositions conjugales, et il lui demande quelles sont les filles à marier. Le tailleur les connaît toutes, et les lui désigne. Le jeune homme fait son choix, déterminé le plus souvent par les conseils du tailleur, et il le charge de porter la parole à la pénère. Aussitôt, le tailleur se met en campagne. Il se rend à la ferme qu'habite la jeune fille désignée, et il s'arrange de façon à lui parler sans témoin. La rencontre paraît fortuite. Il parle du temps, de la récolte, des pardons prochains. Puis, par une transition ingénieuse, il en arrive à aborder la question. Il vante le prétendant. Il appelle l'attention sur la force dont il a fait preuve à la lutte ou à la soule. Il parle de son talent pour conduire les bœufs. Il laisse échapper quelques mots touchant la dot. Enfin, il cite son bon air lorsqu'il s'habille le dimanche et sa mémoire imperturbable qui a retenu les plus belles complaintes de la côte. La nouvelle Ève écoute le serpent tentateur tout en rougissant et en roulant entre ses doigts les bords de son tablier. « Parlez à mon père et à ma mère, » dit-elle enfin. C'est la manière d'exprimer que le parti lui convient. Les parents avertis et consultés, si le jeune homme est agréé au jour convenu, le tailleur, portant à la main une baguette blanche et chaussée d'un bas rouge et d'un bas violet, le leur amène, accompagné de son plus proche parent. Cette démarche s'appelle « demande de la parole ». Là, cessent les fonctions du tailleur. Il ne les reprend plus que pour le jour du mariage, mais elles changent de nature et rentrent alors dans les attributions du poète, ainsi que nous le verrons plus tard. C'était le tailleur de Fouénan qui avait arrangé le mariage de Jahoua et d'Yvonne. Jahoua avait vu la jeune fille au pardon de la Saint-Michel et en était devenu amoureux. Jahoua habitait à 10 lieues de Fouénan. Ne connaissant ni Yvonne ni son père, il avait, suivant la coutume, été trouver le tailleur et l'avait prié de parler en son nom. Le tailleur, très fier d'être employé par un fermier comme Jahoua, n'avait pas demandé mieux que de se charger de l'affaire, et sans retard, il s'était mis à l'œuvre, et il avait réussi. Donc, l'arrivée du tailleur devait être, à bon droit, saluée par les acclamations des assistants. « Ah, c'est vous, tailleur !» s'écria Jahoua. « Oui, mon gars, c'est moi. »« Approchez et prenez un gobelet !» ajouta Yvon. « Asseyez-vous et contez-nous les nouvelles !» fit un troisième. Ah, les nouvelles, mes gars, elles ne sont pas gaies aujourd'hui, répondit le tailleur. Est-ce qu'il est arrivé un malheur à quelqu'un? Demanda Jahoua. Oui. À qui donc? À Rose le Phare de Rosporden. Comptez-nous cela, tailleur, comptez-nous cela, s'écria l'assistance avec un ensemble parfait. Dame, c'est bien simple. La pauvre Rose a eu l'imprudence de ne pas écouter les vieillards. Elle refusait de croire aux vérités que l'on raconte sur les âmes des morts. Si bien que dernièrement, comme elle revenait de la ville un peu tard, elle a traversé le cimetière à minuit. Ici, un frémissement parcourut l'assemblée. « Après ! Après !» demandèrent plusieurs voix. « Eh bien !» continua le tailleur que chacun écoutait avec un recueillement plein de terreur. Lorsqu'elle fut arrivée au milieu des tombes, le 6e coup de minuit sonnait. Alors, elle entendit autour d'elle un bruit étrange. Elle regarda, elle vit toutes les tombes qui s'ouvraient lentement. Puis les morts en sortirent, secouèrent leurs linceuls et les étendirent proprement sur leurs fosses. Ensuite, marchant deux par deux, ils se dirigèrent à pas comptés vers l'église qui s'illumina tout à coup, et ils entrèrent. Rose ne pouvait plus bouger de sa place. Elle entendit des voix lugubres entonner le De Profundis. Alors elle voulut fuir, mais il était trop tard, les morts revenaient vers le cimetière. Elle saisit un linceul et s'en enveloppa pour se cacher. Les morts défilaient devant elle. Rose reconnut sa mère et son père. Ils la virent, eux aussi, et ils l'appelèrent. Rose voulut fuir encore. Les mains des squelettes avaient pris les siennes et l'entraînaient. Le lendemain, un prêtre qui traversait le cimetière trouva le corps de la malheureuse Rose, étendue sans vie auprès de la tombe de sa mère. « Voilà, mes gars, ce que j'avais à vous raconter. » Le tailleur avait cessé de parler, que le silence régnait encore. « Faut dire aussi, reprit-il, car il y a toujours des impies qui sont prêts à tout nier, faut dire que le médecin de Quimper, qui passait par Rosporden dans la journée, ayant entendu raconter l'histoire de Rose le Phare, voulut à toute force la voir. On le conduisit auprès du corps, il la regarda bien, et puis, savez-vous ce qu'il a dit ?
« Qu'est-ce qu'il a dit ?»
demandèrent les paysans. Il a dit que Rose était morte d'une maladie qu'il a appelée d'un drôle de nom. Attendez un peu. Une apâtre. Une acotréplie. Ah, voilà. Une apôtreplessie. Eh bien, moi je dis qu'elle n'est pas morte autrement que par la main des trépassés.
« C'est sûr ! »
s'écria-t-on de toutes parts.
« Faudra prier le recteur de dire une messe pour son âme !»
fit observer Jahoua.
« Justement, le voici !»
dit Yvon en désignant le pasteur qui se dirigeait vers lui. Au moment où le recteur allait s'asseoir à côté de son vieil ami, un galop furieux se fit entendre à l'extrémité du village. Puis on vit, au milieu d'un tourbillon de poussière, un cavalier débouchait à toute bride sur la place de Fouesnant. Ce cavalier était un piqueur du château de Locronan. En arrivant devant la maison d'Yvon, il s'arrêta. Son cheval était blanc d'écume.
« Mes gars ! » s'écria-t-il. « Où est monsieur le recteur ?»«
Me voici, mon ami !»
répondit le prêtre en se levant.
« Ah, monsieur le recteur, il faut que vous veniez au château au plus vite !»«
On a besoin de moi ?»
« Monsieur le marquis vous demande. »«
Savez-vous pourquoi ?»«
Pour le confesser, hélas !»«
Le confesser ?»
s'écrièrent les paysans.
« Est-il donc malade, lui que j'ai vu il y a 2 heures si bien portant ?»
demanda le recteur avec épouvante.
« Ah, mon Dieu, oui ! Cela lui a pris tout de suite en rentrant. Il est tombé de cheval, et le vieux Jocelyn dit qu'il se meurt. »
« Seigneur mon Dieu, ayez pitié de lui !»
murmura le prêtre en quittant le cercle des paysans.
« Je cours au château, mon ami, je cours au château. Voyons, mes enfants, qui veut me prêter un bidet ?»«
Moi, moi, moi !»
répétèrent 20 voix diverses, tandis que 20 paysans se précipitèrent de tous les côtés. L'événement qu'annonçait le piqueur était si inattendu, si terrifiant, que la foule accourue ne pouvait se remettre de la stupeur dont elle était frappée. Nous avons dit combien le marié était adoré dans le pays. Cette vive affection explique cette grande douleur. Enfin, le bidet fut amené. Le recteur l'enfourcha aussi vivement que possible et, suivant le piqueur, suivi lui-même par une partie des hommes du village, il se dirigea rapidement vers le château de Locronan. Les femmes se précipitèrent vers l'église et d'un commun accord entourèrent l'autel de cierges allumés devant lesquels elles s'agenouillèrent en priant. Lorsque le digne recteur arriva en vue du château, une bannière noire flottait sur la tour principale. La foule poussa un cri.
« Il est trop tard !»
murmura le prêtre.
« Le marquis est mort. Dieu et son âme !»
Et mettant pied à terre, il s'agenouilla dans la poussière au milieu des paysans courbés comme lui, et tous prièrent à haute voix pour le repos de l'âme du marquis de Locronan. Chapitre 13. Le dernier des Locronan. Lorsque le marquis de Locronan avait quitté la place de Fouesnant, il était remonté à cheval, et, toujours suivi de Jocelyn et de ses 2 autres domestiques, il avait repris ainsi le chemin du château. Près de 3 lieues séparaient l'habitation seigneuriale du petit village. Pendant la première moitié de la route, le marquis avait chevauché sans prononcer un mot. Il semblait plus triste qu'à l'ordinaire, et sa grande taille se voûtait sous le poids d'une fatigue physique ou d'une pensée incessante de l'esprit. Arrivé à 1/4 de lieue du château, il arrêta son cheval et appela Jocelyn. Le serviteur accourut. Le marquis était d'une pâleur extrême.
« Vous souffrez, monseigneur ? » demanda Jocelyn.
« Horriblement, mon ami, » répondit le gentilhomme. « J'ai la gorge en feu. Je voudrais boire. »
« La source est à 2 pas, »
fit Jocelyn en s'éloignant rapidement. Il revint bientôt, apportant à son maître un vase de terre rempli d'eau fraîche. Le marquis n'était plus pâle, il était devenu livide, et ses joues se tachetaient de larges plaques rouges. Jocelyn le regardait avec effroi. Le gentilhomme porta le vase à ses lèvres et but avec avidité. « Je me sens mieux, » dit-il, « remettons-nous en route. » Le petit cortège avança, silencieux, pendant quelques minutes, puis le marquis chancela sur sa selle et s'arrêta de nouveau. «
Encore !» s'écria Jocelyn, de plus en plus inquiet et affligé. « Un étourdissement, » répondit le marquis.
« Mon Dieu, Seigneur, ayez pitié de nous !» murmura le vieux serviteur à voix basse.
« Jocelyn !» appela de nouveau le marquis.
« Monseigneur, dis-moi, tu étais à Brest avec moi l'an dernier lorsque j'allais visiter le baron de Pont-Louis. »«
Oui, Monseigneur.
Il se mourait à cette époque. »«
Cela est vrai. » »«
Et même, il se mourait par suite d'une substance vénéneuse qu'il avait absorbée. Bref, il était empoisonné. »«
Du moins, on le disait, Monseigneur. »
Et l'on ne se trompait pas, Jocelyn. Le serviteur ne répondit pas. Le marquis reprit. « Il m'a détaillé ses souffrances, et il me semble que ce sont les mêmes que je ressens aujourd'hui. »«
Oh, mon bon maître, ne dites pas cela !»«
Pourquoi ? La mort n'a rien qui m'effraie. »«
Oh, mon Dieu, pourquoi donc avez-vous voulu faire ce que vous avez fait ?»
murmura Jocelyn à voix basse.
« Parce que j'ai cru que Dieu m'inspirait. » Et que je le crois encore. Seulement, je ne pensais pas tant souffrir.
Vous souffrez donc beaucoup, mon bon seigneur?
Comme un damné, Jocelyn, comme un véritable damné. J'ai encore soif.
Nous sommes près du château.
Oui, mais je ne respire plus. Il me semble qu'un nuage épais descend sur mes yeux, qu'un cercle de fer rougit étreint mes tempes.
N'auriez-vous pas la force d'arriver?
« Je vais essayer, Jocelyn, mais je ne le crois pas. Reste là, à mes côtés. Ne me quitte plus. »«
Non, monseigneur, permettez-moi seulement de donner un ordre à Dominique. »
Et Jocelyn, s'adressant à l'un des domestiques de suite, lui commanda de courir au château, de faire atteler le carrosse et de venir en toute hâte au-devant du marquis.
« Non, non, inutile !»
fit vivement celui-ci en arrêtant du geste le domestique qui rassemblait déjà les rênes de son cheval.
« Galopons, plutôt, galopons !»
Et enfonçant les molettes de ses éperons dans le ventre de sa monture qui bondit en avant, le gentilhomme s'élança, suivi de ses domestiques. Jocelyn se tenait botte à botte avec lui, ne le quittant pas des yeux. Il parcourut, en fournissant ainsi une course furieuse, la presque totalité de la distance qu'il avait encore à franchir pour gagner son habitation. Seulement, lui que l'on admirait d'ordinaire pour sa tenue élégante et la manière gracieuse dont il conduisait son cheval, lui qui passait à juste titre pour le meilleur écuyer de la province, il ne se maintenait plus que par un miracle d'équilibre, et en termes de manège, il roulait sur sa selle. Pour gravir la petite montée qui conduisait au château, il fut même obligé, tant sa faiblesse était grande et ses douleurs aiguës, il fut même obligé, disons-nous, d'abandonner les rênes et de saisir à deux mains la crinière de son cheval. Un tremblement convulsif agitait tous ses membres. En arrivant dans la cour, la force lui manqua complètement. Il s'évanouit. Jocelyn n'eut que le temps de se précipiter pour le soutenir. Aidé des autres domestiques, il transporta le marquis, privé de sentiments, dans la chambre à coucher, et il le déposa sur le lit. Au bout de quelques minutes, le gentilhomme ouvrit les yeux.
« Eh bien ?» murmura Jocelyn.
« Je me sens mourir, » répondit faiblement le marquis.
« Du courage, monseigneur !»
Tout à coup, le marquis se dressa sur son séant, et regardant son vieux serviteur avec des yeux hagards,
« Si nous nous étions trompés !» dit-il.
« Ne parlez pas ainsi au nom du ciel !» s'écria Jocelyn, dont la terreur bouleversa soudain les traits expressifs.
« Peut-être serait-ce un bien !»« Oh, mon bon maître, ne dites pas cela !»
Jocelyn s'arrachait les cheveux.
« N'importe, reprit le marquis, je me sens mourir, je le sens. Envoie chercher un prêtre. »«
Monseigneur !»«
Je le veux, Jocelyn. »
Jocelyn transmit l'ordre et un piqueur partit à cheval chercher le recteur de Fouesnant.
« Vous sentez-vous mieux, monseigneur ?»
demanda Jocelyn après le départ du valet.
« Non. Vous souffrez autant ?»«
Plus encore. »«
Que faire, mon Dieu ?»«
Rien. Donne-moi de l'air. J'étouffe. »
Jocelyn, la tête perdue, arracha les rideaux et ouvrit les fenêtres.
« Jocelyn !»
appela le malade. Le serviteur revint vivement auprès du lit.
« Tu te souviens de mes ordres ?»«
Oui, monseigneur. »
« Tu les exécuteras. »
« De point en point, je vous le jure sur le salut de mon âme. »
« Donne-moi ta main, je ne vois plus. »
La respiration du marquis, devenue courte et précipitée, se changeait rapidement en un râle d'agonisant. Ses traits se décomposaient à vue d'œil. Ses doigts, crispés et déjà froids, tordaient les draps et brisaient leurs ongles sur les boiseries. Le marquis ne voyait plus, n'entendait plus. Jocelyn, ivre de douleur, courait follement par la chambre. Il pleurait, il priait, il maudissait. Cependant, un moment de calme parut apporter quelque soulagement au malade.
« À boire !»
dit-il pour la troisième fois. Jocelyn lui offrit une coupe pleine d'un beuvrage rafraîchissant.
« J'ai envoyé à Quimper chercher un médecin, » fit-il en s'adressant à son maître. « Un médecin? Non, dans aucun cas je ne veux le voir. Jocelyn, je le défends. »«
Mais, monseigneur !»«
Assez, je l'ordonne. C'est un prêtre que je veux.
Oh, un prêtre, un prêtre !»«
Le recteur de Fouesnant va venir.
Je ne puis plus attendre. Ah, les douleurs me reprennent. Ah, Seigneur Dieu, que je souffre, que je... »
Le marquis se renversa sur son lit. Une seconde crise, plus forte que la première, venait de s'emparer de lui. Jocelyn essaya de lui glisser un peu du breuvage dans la gorge en desserrant les dents à l'aide d'une lame de couteau. Il ne put y parvenir. L'air sifflait dans cette gorge aride qu'il ne pouvait plus avaler. Le calme revint, le marquis balbutia quelques mots.
« Le portrait de mon père, le portrait !»
demanda-t-il d'une façon inintelligible. Mais comme du geste il désignait le cadre appendu à la muraille en face du lit, Jocelyn devina. Il décrocha la toile et s'approcha. Puis il souleva le tableau dans ses deux mains et, le plaçant en lumière, il le présenta à son maître. Le marquis fit un effort suprême. Il parvint à se soulever à demi. Il contempla le portrait pendant quelques secondes. Tout à coup, son œil s'ouvrit démesurément. Il porta la main à sa poitrine, il essaya d'articuler quelques paroles qui sortirent de ses lèvres en sons rauques et indistincts. Puis, battant l'air de ses bras, il retomba sur sa couche en poussant un faible soupir. Son corps demeura immobile. Jocelyn laissa échapper le tableau, il se précipita vers le malade, il lui saisit les bras et les mains, mais ses mains et ses bras avaient la rigidité de la mort. Les extrémités étaient glacées. Seule, la poitrine conservait un reste de chaleur. Les yeux, toujours démesurément ouverts, étaient dilatés et sans regard. Jocelyn posa sa main sur le cœur. Le cœur ne battait plus. Il approcha un miroir des lèvres blêmes du marquis. La glace demeura brillante. Aucun souffle ne la ternit. Alors Jocelyn recula de quelques pas, leva les bras au ciel, poussa un cri suprême et s'abattit comme une masse sur le tapis. Les domestiques accoururent. Ils relevèrent Jocelyn qui revint bientôt à lui, puis ils entourèrent le lit de leur maître.
« Monsieur le marquis »
murmurait-il à voix basse.
« Monseigneur est mort, » répondit Jocelyn. « Déployez la bannière noire. » Telle est sa volonté suprême.
À ces mots, « Monseigneur est mort », un concert de larmes et de sanglots retentit dans la chambre. « Tous ces braves gens, nous parlons ici des domestiques d'il y a 60 ans, tous ces braves gens aimaient leur maître et le regrettaient sincèrement. Mais celui dont le désespoir était véritablement effrayant était le vieux Jocelyn. Quoi qu'on pût faire pour l'entraîner, il s'obstina à vouloir garder le cadavre du marquis, sans s'éloigner de lui, ne fût-ce que pour une minute. Ce fut au milieu de cette scène de désolation que le recteur de Fouesnant, suivi des paysans bretons, fit son entrée dans le château. Le vénérable prêtre s'approcha du lit. Après avoir reconnu que tous secours corporels et spirituels étaient devenus désormais inutiles, il récita les prières des morts. Les mauvaises nouvelles, on le sait, se propagent avec une rapidité foudroyante. Quelques heures à peine après que la bannière de deuil arborée sur le château eut annoncé la mort du dernier des Locronan, toute la campagne environnante était instruite de cette mort, et le soir même, le bruit en arrivait à Quimper. Ceux qui ne connaissaient pas assez le marquis pour l'aimer l'estimaient profondément. Partout ce furent des regrets, mais nulle part cependant la désolation ne fut aussi vive qu'à Fouesnant. Après la mort de son maître, le vieux Jocelyn avait fait faire tous les préparatifs nécessaires pour la célébration d'un service somptueux. En 2 heures, la physionomie du vieux serviteur avait subi une transformation étrange et mystérieuse. Ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux, ses mains s'agitaient convulsivement. Tout son corps paraissait en proie à des secousses galvaniques. À chaque instant, il pénétrait dans la chambre mortuaire. Sous un prétexte quelconque, il en éloignait tout le monde, à l'exception du recteur, qui, agenouillé au pied du grand lit, priait à voix haute pour le repos de l'âme du défunt. Jocelyn, alors, s'approchait du cadavre. Il le contemplait longuement, en attachant sur lui des regards humides de larmes. Par moments, des lueurs de désespoir sombre, auxquelles succédaient d'autres lueurs d'espérance folle, étincelaient dans ses yeux et faisaient jaillir des éclairs fauves de ses prunelles. Puis, s'agenouillant et joignant ses prières à celles du prêtre, il s'inclinait sur la main glacée du marquis et la baisait avec un sentiment de respect et d'amour. Quand Jocelyn se relevait, il paraissait plus calme. Pendant ce temps, des ouvriers, appelés en toute hâte, auxquels les paysans prêtaient le secours de leurs bras, élevaient une estrade dans la chapelle du château. Aux 4 coins de cette estrade, on plaçait 4 brûle-parfums d'argent massif. On tendait les murailles avec des draps noirs. Les armes des Locronan, voilées d'un crêpe funèbre, y étaient appendues de distance en distance, et ajoutaient à la tristesse de l'ensemble. Des profusions de cierges se dressaient dans d'énormes chandeliers d'église. À 2 heures du soir, la chapelle ardente était prête. Alors, on plaça le corps du marquis, vêtu de ses plus riches habits et décoré des ordres du roi, dans une bière tout ouverte. Les domestiques, en grand deuil, ne voulurent céder à personne l'honneur de porter le corps de leur maître. Le cortège se mit en devoir de descendre l'escalier de marbre du château. Les clergés des villages voisins étaient accourus, accompagnés des populations entières. Les paysans chantaient des psaumes. Les femmes éplorées les suivaient. Tous pleuraient, et pleuraient amèrement celui qui était moins leur maître que leur bienfaiteur et leur ami. Parmi les jeunes filles, on distinguait Yvonne, plus triste encore que ses compagnes. Le vieil Yvon et les autres vieillards accompagnaient les recteurs et les vicaires, précédés du bon prêtre de Fouesnant. On déposa le cercueil sur l'estrade. 4 prêtres demeurèrent dans la chapelle pour veiller le corps. Puis la foule s'écoula tristement. Tous devaient revenir le lendemain, car le lendemain était le jour fixé pour la cérémonie funèbre. Chapitre 14. Les funérailles. Bien avant que les premières lueurs de l'aube naissante vinssent teinter l'horizon de nuances orangées, les cloches des églises environnantes firent entendre leur glas sinistre. Presque partout, les paysans étaient demeurés en prière pendant la plus grande partie de la nuit. Des cierges brûlaient sur tous les autels. Les femmes et les jeunes filles préparaient des vêtements noirs et bleus, qui sont les couleurs du deuil en Bretagne. Mais nulle part la douleur n'était aussi profonde qu'à Fouesnant. Les principaux habitants avaient passé la nuit dans la maison d'Yvon, tandis que les femmes priaient dans une salle voisine, les hommes causaient à voix basse, se racontaient mutuellement les nombreux traits de bienfaisance qui avaient honoré la vie du défunt.
« Je n'étais pas son fermier, » disait Jajoie. « Je ne suis pas né sur ses terres, et pourtant je l'aimais comme s'il eût été mon seigneur. »
« Et dire que voilà une si noble famille éteinte, » fit le vieil Yvon en passant la main sur ses yeux.
« C'est une vraie calamité pour le pays. »
« Une vraie calamité, eh oui, »
répondit un paysan.
« Car enfin, qui sait entre quelles mains vont passer les domaines? À qui aurons-nous affaire? Peut-être à quelque beau muguet de la France qui nous enverra son intendant pour nous appauvrir.
Oh, « Seigneur Dieu !» fit le tailleur, qui, malgré sa loquacité ordinaire, était demeuré bouche close depuis le commencement de la conversation.
« Seigneur Dieu, je n'en puis revenir. Dire qu'il n'y a pas 24 heures qu'il était là, sur la place, au milieu de nous. »
« C'est pourtant la vérité, » répondirent plusieurs voix.
« Pour sûr, il y a dans cette mort quelque chose de surnaturel. »«
Qu'est-ce que vous voulez dire, tailleur ?»«
Je veux dire ce que je dis, et je m'entends. La dernière fois que je suis monté au château, j'ai rencontré 3 pies sur la route. »
« 3 pies !» fit observer Jajoie. « Ça signifie malheur !»«
Et puis après ?» demanda un paysan.
« Après, mon gars, dame, l'année passée, quand j'étais à Brest, vous savez que le pauvre baron de Pont-Louis, Dieu veuille avoir son âme, est mort comme notre digne marquis, presque subitement, sans avoir eu le temps de se confesser. »«
Oui, oui, continuez, tailleur.
Savez-vous ce qu'on disait ?»
« Non. Qu'est-ce qu'on disait ?»
Et les paysans, se pressant autour de l'orateur, attendaient avec avidité les paroles qui allaient sortir de ses lèvres.
« Eh bien, mes gars, on disait que le baron avait été empoisonné. »«
Empoisonné ?»
s'écria l'assemblée avec terreur.
« Oui, empoisonné. Et m'est avis que la mort de monseigneur le marquis de Locronan ressemble beaucoup à celle de monsieur le baron. »
Les paysans étaient tellement loin de s'attendre à une semblable conclusion qu'ils restèrent stupéfaits, et qu'un profond silence fut la réponse qu'obtint tout d'abord le tailleur. Cependant, Jajoie, plus hardi que les autres, reprit après quelques minutes.
« Comment, tailleur, vous croyez qu'on aurait commis un crime sur la personne de monsieur le marquis ?»«
Je dis que ça y ressemble. »
« Et qui accusez-vous ? »
Le tailleur haussa les épaules, puis il répondit.
« Depuis plusieurs jours, on a vu des étrangers rôder autour du château. »
« Eh bien ?»«
Eh bien, ne savez-vous pas ce qu'on dit de ce qui se passe en France ?»«
Après cela, »
continua-t-il avec un peu de dédain,
« dans ces campagnes reculées, on n'apprend jamais les nouvelles. Mais moi qui vais souvent dans les villes, je suis au courant des événements. »
« Qu'est-ce qu'il y a donc ?» demanda un vieillard.
Il y a qu'à Paris, on s'est battu, on a pendu des nobles.
Pendu des nobles ?
S'écrièrent les paysans avec une réprobation évidente.
Oui, mes gars, ils font là-bas, à ce qu'ils disent, une révolution. Ils veulent contraindre le roi à signer des édits, et comme les gentilshommes soutiennent le roi, ils tuent les gentilshommes. Qu'est-ce qu'il y aurait d'étonnant à ce qu'on se soit attaqué à notre pauvre marquis, car chacun sait qu'il aimait son roi.
« c'est vrai !» murmura la foule.
On m'a raconté qu'en Vendée, il y avait déjà des soldats bleus qui brûlaient les fermes et massacraient les gars.
« Des soldats ? »
s'écria Jajoie en se redressant.
Eh bien, qu'ils osent venir en Bretagne. Nous avons des fusils et nous les recevrons.
Oui, oui, répondit l'assemblée. Nous nous défendrons contre les égorgeurs.
Méga, s'écria le vieil Yvon en se levant. Si ce que dit le tailleur est vrai, si on a assassiné notre seigneur, nous le vengerons, n'est-ce pas?
Oui, nous tuerons les bleus.
Comme on le voit, l'allure de la conversation tournait rapidement à la politique. Le tailleur, agent royaliste, avait su amener fort adroitement, à propos de la mort du marquis, une effervescence que l'on pouvait sans peine exploiter au profit des idées naissantes de guerre civile qui s'agitaient à cette époque dans quelques esprits de la Bretagne et de la Vendée. Le marquis de la Rouërie, le premier qui ait osé lever un drapeau en faveur de la contre-révolution, avait eu l'habileté de se mettre en communication avec tout ce qui possédait une influence, grande ou minime, sur les terres de Vendée et de Bretagne. Pour nous servir d'un terme vulgaire, il échauffait les esprits. Au reste, n'oublions pas que nous sommes au milieu de l'année 1791 et que le moment était proche où toutes les provinces de l'Ouest allaient arborer l'étendard de la révolte. Les meneurs parisiens n'ignoraient pas ces dispositions de la population bretonne et de la population vendéenne. Quelques mois plus tard, le 5 octobre de la même année, messieurs Gallois et Jansonnet, commissaires envoyés le 19 juillet précédent dans le département de la Vendée pour s'informer des causes de la fermentation qui s'y manifestait, avaient fait leur rapport à l'Assemblée constituante. L'exigence de la prestation du serment ecclésiastique, disait-il dans ce rapport, a été pour le département de la Vendée la première cause de ces troubles. La division des prêtres en assermentés et non assermentés a établi une véritable scission dans le peuple des paroisses. Les familles y sont divisées. On a vu et on voit chaque jour des femmes se séparer de leurs maris, des enfants abandonner leurs pères. Les municipalités sont désorganisées. Une grande partie des citoyens ont renoncé au service de la garde nationale. Il est à craindre que les mesures vigoureuses, nécessaires dans les circonstances contre les perturbateurs de repos public, ne paraissent plutôt une persécution qu'un châtiment infligé par la loi. Le rapport entendu, l'Assemblée décréta qu'il serait envoyé des troupes en Vendée. Donc la Vendée s'agitait déjà, ou du moins la partie du pays où se passent les faits de ce récit était encore à peu près calme. Seulement, on profitait des moindres circonstances pour animer les esprits. La mort du marquis de Locronan arrivait comme un puissant auxiliaire au secours des agents royalistes. La conversation des paysans bretons fut interrompue par la sonnerie lugubre des cloches. Tous se mirent en prière, et, oubliant les orages politiques pour la calamité présente, ils se disposèrent à gagner le château. Seulement, avant de partir, Yvon, après avoir échangé tout bas quelques mots avec les vieillards, fit signe qu'il voulait parler. On fit silence et on l'écouta. « Méga, dit-il. « Demain devait avoir lieu le mariage de ma fille et la fête de la Soule. Dans un pareil moment, tout ce qui ressemblerait à une réjouissance publique serait peu convenable. Nous venons de décider, vos pères et moi, que l'une et l'autre cérémonie serait remise à 8 jours. » Les paysans s'inclinèrent en signe d'assentiment, et la population du village, se réunissant sur la grande place, au premier rayon du soleil levant, se dirigea vers le château. À ce moment précis, 2 cavaliers, lancés à fond de train sur la route de Quimper, prenaient la même direction. Ces 2 cavaliers étaient le comte de Fougueray et le chevalier de Tessy. Ils avaient appris la fatale nouvelle quelques heures auparavant, et ne pouvant en croire leurs oreilles, ils se hâtaient d'accourir. Tous 2 étaient pâles, et leurs traits contractés indiquaient les émotions qui les agitaient.
Si cela est vrai, nous sommes perdus, disait le comte.
Pas encore, répondait le chevalier.
Oh, je n'ai guère d'espoir.
J'en ai deux, moi.
Lesquels ? Celui d'abord que la nouvelle est fausse. Celui ensuite que le marquis ait eu recours à quelque subterfuge pour essayer de nous tromper.
Corbleu ! Si telle a été sa pensée, il ignore à qui il a affaire. Le médecin est-il parti ?
Je l'ai réveillé moi-même et je l'ai vu monter à cheval. Il doit être arrivé depuis près d'une heure.
Bien.
Il nous faudra voir le cadavre.
Nous le verrons.
Et si l'on s'opposait à notre examen ?
Impossible. Nous ferions tant de bruit que l'on oserait.
Et s'il y a fourberie ?
S'il y a tromperie, interrompit le chevalier, nous constaterons le fait en silence. Ce sera une arme de plus entre nos mains.
Et une arme terrible.
Les deux cavaliers arrivèrent à la porte du château. La cour était pleine de paysans et de domestiques. On prit les deux arrivants pour d'anciens amis du marquis, et chacun s'empressa de leur faire place. Le comte et le chevalier mirent pied à terre. Aussitôt, un homme vêtu de noir s'avança vers eux.
« Ah, c'est vous, docteur, » fit le chevalier. « Avez-vous vu notre pauvre marquis ?»«
Pas encore, je vous attendais. »
« C'est bien, suivez-nous. »
Le comte marchant en tête, les trois hommes pénétrèrent dans la salle basse. Jocelyn, prévenu de leur arrivée, les attendait sur le seuil.
« Que voulez-vous ? » demanda-t-il brusquement.
« Le marquis de Locronan, » répondit le comte.
« Monseigneur est mort. »
« Quand cela ? » ?»«
Hier, à midi et demi. »
« Ne pouvons-nous du moins le contempler une dernière fois ?»«
Entrez dans la chapelle, messieurs. »
Et Jocelyn, saluant à peine, désigna du geste l'entrée du lieu sacré et se retira.
« Cette mine de vieux bouledogue anglais ne me présage rien de bon, » murmura le comte. « Est-ce que ce damné marquis serait mort et bien mort ?»«
Entrons toujours, » répondit le chevalier.
Une fois dans la chapelle et en présence du recteur et des nombreux assistants, les deux aventuriers, car désormais nous devons leur donner ce titre, qui, le lecteur l'a deviné sans doute, leur convient de tout point. Les deux aventuriers crurent nécessaire de jouer une comédie larmoyante. Ce furent donc, de leur part, des gestes attendris et des pleurs mal essuyés, attestant une douleur vive et profonde.
« Jamais, » disaient-ils, chacun sur des variations différentes, mais au fond sur le même thème.
Jamais ils n'auraient pu songer, en quittant quelques jours auparavant leur cher et bien-aimé marquis, qu'ils le serraient dans leurs bras pour la dernière fois. Puis suivaient des soupirs, des « hélas », des sanglots difficilement contenus. Il fallait que ces hommes fussent de bien complets misérables. Il fallait que leur cœur fût gangréné tout entier et dénué de l'ombre même d'un sentiment de décence, pour qu'ils osassent jouer une si infâme comédie en présence d'un cadavre et d'une foule désolée. Ils poussèrent l'audace jusqu'à dire que leur tendre affection n'avait pu encore se résoudre à ajouter foi à toute l'étendue du malheur qui les frappait, et qu'ils avaient amené un médecin pour s'assurer que l'espoir d'une léthargie ou de toute autre maladie donnant l'apparence de la mort était anéanti pour eux. Bref, ils jouèrent leur rôle avec une telle perfection que, Jocelyn n'étant pas présent, les prêtres et les témoins de cette douleur bruyante ne purent s'empêcher de compatir à cette désolation sans bornes. Le pieux recteur de Fouesnant voulut même leur prodiguer les consolations de la parole. On tenta de les arracher à ce spectacle qui semblait déchirer leur cœur. Soins inutiles, instances vaines, ils persistèrent dans leur désir de rester présents, et ils déclarèrent formellement ne vouloir se retirer qu'après que le célèbre praticien qu'ils avaient amené avec eux aurait bien et dûment constaté que le malheur était irréparable et que la science devenait impuissante. Force fut donc de leur laisser tromper leur douleur pour quelques instants en leur permettant de satisfaire un désir si légitime et si ardemment exprimé. Les prêtres s'écartèrent
et le médecin, sur un signe du comte, gravit les marches du catafalque. Le docteur avait sans doute reçu des ordres antérieurs, car il procéda minutieusement à l'examen du corps. Après 10 minutes d'une attention scrupuleuse, il secoua la tête, laissa retomber dans la bière la main inerte qu'il avait prise, et s'adressant au comte et au chevalier, « La science ne peut plus rien ici, messieurs, » dit-il. « Pour faire revivre le marquis de Locronan, il faudrait plus que le pouvoir des hommes. Il faudrait un miracle de Dieu. Le marquis est bien mort. » Chapitre 15. Les héritiers pressés. Le comte et son compagnon courbèrent la tête sous cet arrêt sans appel prononcé à voix haute. Ils se retirèrent ensuite à pas lents, au milieu des témoignages d'estime et de sympathie. Arrivés à la porte de la chapelle, ils en franchirent silencieusement le seuil. Mais une fois dans la cour, ils traversèrent une voûte, descendirent au jardin, et, ayant trouvé un endroit solitaire, « Eh bien, docteur ! » demanda brusquement le chevalier en s'adressant au médecin. « Eh bien, messieurs, j'ai dit la vérité !» répondit froidement celui-ci. « Le marquis de Locronan est bien mort. » « Rien n'est simulé ?»« Tout est vrai. »« Vous en répondez ?»« J'en fais serment. Au reste, si vous doutez de mes paroles, adressez-vous à quelqu'un de mes confrères. »« Inutile !» répondit le comte en frappant du pied avec colère. « Inutile, nous n'avons plus besoin de vous, docteur. »« Je puis repartir ?»« Quand vous voudrez. »« Nous nous reverrons ce soir à Quimper, » ajouta le chevalier, « et nous vous récompenserons de vos peines et de vos bons soins. » Le médecin s'inclina et sortit du petit parc. Les deux hommes, demeurés seuls, se regardèrent pendant quelques minutes avec anxiété. Puis, le comte laissa s'échapper de ses lèvres une série de malédictions qui, si elles eussent été entendues, auraient singulièrement compromis sa douleur affectée. « Sang du Christ !» murmura-t-il. « Corps du diable, nous sommes ruinés, Raphaël !»« Chut, pas de nom propre ici !» répliqua vivement le chevalier. Il y eut un instant de silence. Tout à coup, le comte releva fièrement la tête. Une pensée soudaine illumina son front soucieux. « Que faire ?» demanda le chevalier. « Voir Jocelyn à l'instant même. Pourquoi ? J'ai un projet. Est-il bon, ce projet ?» « Tu en jugeras, Raphaël. Viens avec moi. » Le comte rencontra Jocelyn dans la cour. Il alla droit à lui et, le prenant à part, « Nous avons à vous parler, » lui dit-il. « À moi ?» répondit le serviteur étonné. « À vous-même, sans retard et sans témoin. »« Mais dans un semblable moment, » balbutia Jocelyn, « c'est justement le moment qui nous décide et qui nous fournira le sujet de notre conférence. » « Soit, messieurs, je suis à vos ordres. Alors, conduisez-nous quelque part où l'on ne puisse nous entendre. Montons à la bibliothèque. Montons. » Les trois hommes gravirent rapidement le premier étage de l'escalier du château. Jocelyn introduisit ses deux interlocuteurs dans la petite pièce que nous connaissons déjà. Rien n'y était changé. Les livres que le marquis avait feuilletés la veille au matin étaient encore ouverts sur la table. Jocelyn poussa un soupir. Le comte et le chevalier n'y prêtèrent pas la moindre attention. Seulement, ils s'assurèrent que personne ne pouvait les entendre. Cette précaution prise, ils attirèrent à eux des sièges. « Pas là !» s'écria Jocelyn en voyant le comte s'emparer du fauteuil armorié que nous avons décrit précédemment.
« Que dites-vous ?
Je dis que vous ne vous asseyrez pas dans ce fauteuil !» fit résolument le serviteur en éloignant ce meuble révéré. « Ah, c'est le fauteuil de feu le marquis ?» répondit le comte avec insouciance et en prenant un autre siège. « Soit, je ne vous contrarierai pas pour si peu. Puis, je vous jure que la chose m'est complètement indifférente. » « Jocelyn, » dit à son tour le chevalier, « mon frère a le désir de vous faire une communication importante. » « Je vous écoute. » répondit Jocelyn en demeurant debout, non par respect, mais par habitude. « Seulement, je vous ferai observer que j'ai peu de temps à vous donner. »
« Oh, soyez sans crainte, estimable Jocelyn, » fit le comte en souriant. « Je serai bref dans mon discours, et il ne tiendra qu'à vous de terminer promptement notre conversation. Veuillez donc commencer. » « Ça d'abord, maître Vallée, il me semble que vous manquez étrangement, vis-à-vis de nous, au respect qu'un manant de votre sorte doit à deux gentilshommes, tels que le chevalier de Tessy et moi. » « Tout manant que je sois, » répondit Jocelyn avec hauteur, « sachez bien que j'ai quelque influence ici. Tous ces braves paysans qui remplissent la cour et le parc adoraient mon pauvre maître. Si je leur disais que les tortures que vous lui avez infligées l'ont conduite au tombeau, soyez convaincus que vous ne sortiriez pas vivant de ce château, et que tout bon gentilshomme que vous puissiez être, vous seriez infailliblement pendus aux grilles avant que 5 minutes se fussent écoulées. Oses-tu bien parler ainsi, drôle ? Êtes-vous curieux d'en faire l'expérience ? Jocelyn se dirigeait vers la porte. « Nous ne sommes pas venus pour discuter avec vous, » fit vivement le chevalier. « Écoutez-nous, mon cher Jocelyn, et vous agirez ensuite comme bon vous semblera. »« Eh bien, je vous l'ai déjà dit, parlez promptement, messieurs, je vous écoute. » « Jocelyn, » reprit le comte, « vous aviez toute la confiance de votre maître. »« J'avais effectivement cet honneur. Vous n'avez jamais quitté le marquis depuis 30 ans. »« Cela est vrai. » Donc, vous nous connaissez tous deux, mon frère et moi, et vous n'ignorez pas de quelle nature étaient nos relations avec le marquis. » Jocelyn ne répondit pas. Le comte de Fougueray continua. « Je prends votre silence pour une réponse affirmative. Donc, vous savez que votre maître était en notre puissance et que son honneur était entre nos mains. Or, vous devez savoir aussi que l'honneur d'un gentilhomme, surtout lorsque ce gentilhomme est un locronan, vous devez savoir, dis-je, que cet honneur ne meurt point au moment où la vie s'éteint. » Je ne vous comprends pas. En d'autres termes, je veux dire que, vivant ou mort, le marquis de Locronan peut être déshonoré par nous. Quoi ? Vous voudriez... Attendez donc. La mort du marquis est un obstacle à l'exécution de certaines conventions arrêtées entre nous, conventions d'où dépend notre fortune à venir et dont l'inexécution nous porte un préjudice déplorable. Or, vous comprenez sans peine que nous éprouvions en ce moment quelque velléité de vengeance contre ce marquis qui vient nous frustrer. Il est mort, cela est vrai, et nous ne pouvons nous en prendre à son corps. Mais sa mémoire et son nom nous restent, et nous sommes décidés à les livrer à l'infamie. « Mais c'est horrible !» s'écria Jocelyn. « Que pensez-vous de cette résolution, estimable serviteur ? Parlez sans crainte. Je pense que vous êtes des misérables. Parole perdue que tout cela. Et vous croyez que je vous laisse réagir ? Parbleu ! Eh bien, vous vous trompez. Vraiment ? Je vais... « Ameuter ces drôles contre nous ?» interrompit le comte en désignant les paysans assemblés dans la cour. « Erreur, mon cher, grave erreur. Ce serait le moyen le plus certain de voir déshonorer à l'instant la mémoire de votre maître. Nous ne sommes pas si inégaux que de nous être mis de cette façon à la merci des gens. Nous jeter ainsi dans la gueule du loup pour qu'il nous croque ? Allons donc !» Le chevalier et moi sommes des gens fort adroits, mon cher Jocelyn. Vous avez vu, lorsqu'il y a quelques jours, le marquis voulut faire de nous un massacre général, qu'il a suffi d'un seul mot pour le désarmer et l'amener à composition. Sachez bien, mon brave ami, que les papiers qui renferment les secrets de la vie de votre maître sont déposés à Quimper, entre les mains d'une personne qui nous est toute dévouée. Si, par un hasard quelconque, nous ne reparaissions pas ce soir, ces papiers seraient remis à l'instant entre les mains de la justice. Or, vous n'ignorez pas, vous qui êtes au courant des événements politiques, que la justice aime assez en ce moment à courir su au bon gentilshomme pour flatter les instincts populaires en vue de ce qui doit arriver. Donc, quoi que vous fassiez, si nous ne nous entendons pas, le marquis de Locronan, mort ou vivant, sera jugé.
Vous n'oseriez évoquer cette affaire, répondit Jocelyn.
Et pourquoi pas?
Parce que je raconterai la vérité, moi.
Vraiment?
Je dirai ce que vous avez fait.
Et quoi donc? Qu'avons-nous fait?
Je dirai que vous avez spéculé sur ce secret pour arracher des sommes énormes à mon maître. Enfin, je raconterai votre dernière visite.
Bah, on ne vous croirait pas.
On ne me croirait pas,
s'écria Jocelyn avec impétuosité.
Eh non, quelle preuve avez-vous? Nous démentirons vos paroles.
Mon Dieu, mais enfin, que voulez-vous de moi?
Vous prévenir que nous allons agir.
Oh non, vous ne le ferez pas.
Si fait, parbleu.
Messieurs, messieurs, je vous en conjure. Rappelez-vous que mon pauvre maître vous a toujours comblé de bienfaits. Ne déshonorez pas sa mémoire, ne révélez pas cet affreux mystère. Oh, je vous en supplie. Voyez, je me traîne à vos genoux. Dites, dites que vous ne remuerez pas les cendres qui reposent au fond d'un cercueil.
Mon Dieu, mais quel intérêt vous pousserez? La vengeance est stérile.
Tout en parlant ainsi, Jocelyn, les yeux pleins de larmes, les mains suppliantes, s'adressait tour à tour au chevalier et au comte. En voyant le désespoir du fidèle serviteur, le comte lança à son compagnon un regard de triomphe. Puis, revenant à Jocelyn, il sembla prêt à se laisser fléchir.
« Peut-être dépend-il de vous que nous n'agissions pas ainsi que nous l'avons résolu ?» dit-il.
« Eh, que dois-je faire pour cela ?»
Répondre franchement.
« À quoi ?»
« À ce que nous allons vous demander. »
« Parlez donc, messieurs, et si je puis vous répondre selon vos désirs, je le ferai. »
« Le marquis a-t-il fait un testament ?»«
Je n'en sais rien, mais je ne le crois pas. »
« Alors, n'ayant eu aucun enfant de ces deux mariages, ces biens reviendront à des collatéraux ?»«
C'est possible. »
Le comte et le chevalier poussèrent un profond soupir.
« Jocelyn, dit brusquement le comte, venons au fait. » Nous ne pouvons malheureusement rien prétendre sur l'héritage, mais avant que la justice soit venue ici mettre les scellés, nous sommes les maîtres de la maison. Or, la justice va venir avant une heure. D'ici là, agissons.
« Que voulez-vous donc ? » demanda Jocelyn.
« Nous voulons que tu nous livres immédiatement tout ce qu'il y a au château d'or, d'argent et de pierreries. »
« Mais, oh, n'hésite pas !» L'honneur de ton maître te met à notre discrétion, souviens-toi.
Messieurs, je ne puis. Dépêche-toi, te dis-je.
On m'accusera de vol, encore une fois.
Encore une fois, dépêche-toi, ou je te le jure par tous les démons de l'enfer. Si tu nous laisses sortir d'ici les mains vides, avant qu'il soit nuit, nous aurons publié dans tout le pays la bigamie du marquis de Locronan.
Jocelyn demeura pendant quelques secondes indécis. Un violent combat se lisait sur sa figure et contractait sa physionomie expressive. Enfin, il sembla avoir pris un parti.
« Venez, dit-il, je vais faire ce que vous me demandez. Mais que le crime en retombe sur vous !»«
C'est bon, nous achèterons des indulgences à Rome, répondit le marquis. Nous sommes au mieux avec trois cardinaux. »
Jocelyn conduisit les deux hommes dans une pièce voisine qui contenait les annales du château et de la famille de Locronan. Il prit une clé qu'il tira de la poche de son habit et il ouvrit une énorme armoire en chêne toute doublée de fer. Cette armoire était, à l'intérieur, composée de divers compartiments. Le comte exigea qu'ils fussent ouverts successivement. À l'exception d'un seul, il renfermait des papiers. Mais ce que contenait le dernier valait la peine d'une recherche minutieuse. Il y avait là, enfermés dans une petite caisse en fer ciselée, des valeurs pour plus de 150 000 francs. Les unes en détraite sur l'intendance de Brest, d'autres sur celle de Rennes. Puis des diamants de famille non montés, de l'or pour une somme de près de 30 000 livres, etc., etc. Le comte et le chevalier, éblouis par la vue de tant de richesses et n'espérant pas trouver un pareil trésor, ne purent retenir un mouvement de joie. Sans plus tarder, ils s'emparèrent des traites, toutes aux porteurs, et des diamants qu'ils firent disparaître dans leurs poches profondes. À les voir ainsi âpres à la curée, on devinait les bandits sous les gentilshommes. Jocelyn les connaissait bien, probablement, car il ne s'étonna pas. Restait l'or, dont le volume offrait un obstacle pour l'emporter facilement. Le comte fit preuve alors de toute l'ingéniosité de son esprit fertile en expédient. Après en avoir fait prendre au chevalier, et après en avoir pris lui-même tout ce qu'il pouvait porter, il versa le reste des louis dans une sacoche qu'il se fit donner par Jocelyn. Puis, dégrafant son manteau, il l'enroula autour du sac et il passa le tout sur son bras en arrangeant les plis de manière à dissimuler le fardeau. « Là, dit-il quand cela fut fait, maintenant, mon brave Jocelyn, tu vas nous reconduire avec force politesse, et pour te récompenser de ton zèle, nous te jurons que tu n'entendras plus jamais parler de nous. » Jocelyn leva les yeux au ciel en signe de remerciement et s'empressa de précéder les deux larrons.